VOA Afrique, les infos. À Washington, Nathalie Barre.
Bonsoir, Jacques Aristide avec vous pour ce tour d'horizon de l'actualité. En République démocratique du Congo, le mouvement citoyen lutte pour le changement. Lucha annonce la mort de Luke Nkulula, l'un de ses fondateurs. Il est décédé dans l'incendie qualifié de suspect de sa maison dans la nuit de samedi à dimanche à Goma, dans l'est du pays. Nous soupçonnons les ennemis de la démocratie et de la paix d'être responsables de cet acte lâche sur la personne de notre camarade, même si jusque-là, nous ignorons l'origine du feu. C'est ce qu'a déclaré Ghislain Mouiwa, l'un des responsables de ce mouvement des jeunes indignés basé à Goma, dans le Nord Kivu. Lucha est farouchement opposé au maintien au pouvoir du président congolais Joseph Kabila au-delà de la fin de son mandat qui a expiré le 20 décembre 2016. Mi-août 2016, Luke Nkulula était le porte-parole du mouvement lors d'une audience à Goma avec le président Kabila. Au Cameroun, un soldat a été tué hier lors d'une agression dans la région anglophone du Nord-Ouest. L'adjudant a été attaqué près de Furuawa dans le département de la Menchum alors qu'il était en patrouille avec un autre militaire qui n'a pas été blessé. Il s'agit d'un guet-apens d'après les sources régionales qui n'ont pas précisé les motivations des agresseurs. Au Tchad, les avocats, notaires et huissiers de justice ont décidé de poursuivre leur grève au moins jusqu'au 13 juin, malgré un geste du gouvernement qui a limogé un gouverneur du sud du pays accusé de violence contre un avocat et ses clients relaxés. Le personnel judiciaire réclame désormais le limogeage des autorités militaires et civiles impliquées dans ces violences. Il souhaite organiser une marche le 16 juin, N'Djamena, la capitale. Au Mali, hommage du président Ibrahima Boubacar Keïta au professeur Ogbahara Doumbo après le décès hier à 62 ans de ce Malien spécialiste du paludisme de renommée mondiale. Le Mali perd un de ses fils les plus illustres et le monde de la recherche voit s'éclipser une étoile promise à briller au firmament, écrit le chef de l'État sur Twitter. 4 migrants ont été retrouvés morts et 108 autres secourus ce dimanche en Méditerranée alors qu'ils tentaient de gagner l'Espagne à bord de 4 embarcations. Les 4 corps ont été découverts dans une des embarcations dans les provinces, dans les environs du détroit de Gibraltar qui sépare l'Espagne du Maroc. On ignore les causes de leur mort. Plus de 240 migrants ont trouvé la mort depuis le début de l'année en tentant de gagner l'Espagne, troisième porte d'entrée en Europe pour l'immigration clandestine derrière l'Italie et la Grèce. L'actualité internationale dominée par ce prochain sommet, le président américain Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un sont à Singapour à 2 jours de leur sommet historique, un tête-à-tête après des décennies de tensions entre les États-Unis et la Corée du Nord. L'arsenal nucléaire nord-coréen qui a valu à Pyongyang une impressionnante série de sanctions de l'ONU au fil des ans sera au cœur de toutes les discussions. Avant de quitter le sommet du G7 au Canada, hier, M. Trump a affiché son optimisme sur cette rencontre. Kim Jong-un était souriant à son arrivée à Singapour. Il a ensuite rencontré le chef du gouvernement singapourien, Lee Hsien Loong, qui a salué la décision courageuse et admirable d'organiser ce sommet. Donald Trump et Kim Jong-un se retrouveront mardi matin dans un hôtel de luxe de Singapour. En Syrie, 15 civils, dont des enfants, ont été tués ce dimanche dans des raids du régime dans la province d'Idleb. Après une attaque djihadiste contre des villages pro-régime de cette région, des bombes sont tombées près d'un hôpital pour enfants, d'après l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Dans cette même province, des combats se poursuivent parallèlement entre djihadistes et forces pro-régime près des villages de Foua et Kafraya, deux des rares poches contrôlées par le régime de Bachar al-Assad à Idleb et sont les dernières zones encore assiégées en Syrie selon l'ONU. Plus de 8000 personnes en majorité de confession chiite y vivent actuellement. Et puis en Irak, un incendie au plus grand dépôt de bulletins de vote du pays à l'approche d'un nouveau décompte des voix face à des suspicions de fraude massive aux législatives du 12 mai dernier. Et voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité. C'était Jacques Aristide à Washington. Je vous retrouve dans un peu moins d'une heure pour un autre bulletin d'information. À tout à l'heure.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Afrique en direct de Washington. Foi et tradition.
Vérité et doctrine.
Le dialogue des religions.
Sur la voie de l'Amérique.
Bienvenue dans ce dialogue des religions, chers fidèles auditrices, auditeurs de VOA Afrique. Eric Manirakiza avec vous ici à Washington. Aujourd'hui, nous parlons de la relation entre la foi et les choix individuels. Par rapport aux exigences de votre religion, pensez-vous que votre foi guide toujours vos décisions quotidiennes ? Sur la question de l'avortement, par exemple, nos sociétés apportent-elles du soutien à la femme pour décider d'avoir ou de ne pas avoir un enfant ? Vous avez été nombreux à commenter ce sujet sur la page Facebook. Vous pouvez aussi nous appeler sur le plus 1 202 205 26 33. Je répète, plus 1 202 205 26 33. Voilà, les discussions sont ouvertes et avant de commencer, je dois vous présenter quelques invités. Nous avons une auditrice à Kampala qui est anthropologue. Bonsoir.
Bonsoir.
Nous essayons de joindre aussi un deuxième invité qui est ici aux États-Unis. C'est Monsieur Karekezi. On ne l'a pas encore. On va essayer de le joindre. Nous avons déjà Monsieur Jean-Pierre Karekezi. Bonsoir, Jean-Pierre. Jean-Pierre, est-ce que vous nous entendez?
Oui, je suis là.
Voilà. Je signale que vous êtes professeur à American University of Nigeria. Vous enseignez des cours sur la société et la religion et vous êtes auteur de « L'Église catholique à l'épreuve du génocide, le cas du Rwanda ». Et vous avez aussi écrit « Des femmes témoins et la prise de parole ». Voilà, ce sont les deux articles que nous avons sélectionnés parmi les ouvrages que vous avez déjà publiés ou contribués à leur publication. Et la première invitée, c'est Aïdé, qui est à Kampala, à l'université de Makerere. Voilà, vous avez suivi notre sujet. On parle de la foi et des choix individuels. Jean-Pierre, je vais commencer par vous. Comment vous appréhendez cette dimension?
Je crois que c'est assez complexe et ça dépend d'abord de la croyance de chaque individu et surtout de son appartenance. Voyons, par exemple, pour l'Église catholique, la foi est définie comme quelque chose qui appartient à une communauté. Donc ça signifie, si je dis je suis chrétien catholique, ou j'ai la foi catholique, c'est-à-dire je me réclame d'un ensemble de croyances que j'ai en commun avec un certain groupe, avec une communauté, et surtout selon une certaine tradition. Donc ça signifie, si je suis individu, je m'inscris aussi dans cette appartenance, hein, de certaines communautés. C'est vrai, ça existe aussi chez les protestants, mais rendez-vous compte qu'au le 16e siècle est aussi considéré comme le moment de la naissance, disons pendant la Renaissance, évidemment de la naissance de l'individu. Et surtout avec le protestantisme, où la place de l'individu devient très importante. Et donc, chez les protestants, bien sûr, il y a la communauté, mais l'individu aussi est très important dans sa façon d'exprimer sa foi. Mais aussi, il y a les convictions personnelles qu'il faut considérer. Donc, je peux me réclamer d'une certaine foi, donc comme chrétien ou musulman, mais en même temps, j'appartiens aussi à une communauté africaine, j'appartiens aussi à une communauté intellectuelle, ou plutôt il y a mes propres convictions, mes propres lectures, et tout cela peut aussi influencer ma façon de voir le monde, ma relation avec Dieu. Donc la raison pour laquelle je commençais par dire, c'est quelque chose de complexe, quoi, définir la foi et l'individu.
Merci Jean-Pierre, on va revenir vers vous. Vous parlez de la religion catholique. Vous connaissez l'Irlande, le pays à forte tradition catholique. La loi sur l'avortement a été l'une des plus restrictives d'Europe et la population a largement dit oui par référendum à la légalisation de l'IVG. Et la consultation posée précisément sur la question de l'abrogation du 8e amendement de la Constitution irlandaise, introduit en 1983, qui interdit l'avortement au nom du droit à la vie de l'enfant à naître, égal à celui de la mère. Je reviens vers vous, Aïdé. Vous êtes ouverte aux choix individuels, n'est-ce pas? Vous êtes catholique, pratiquante.
Oui. Je suis catholique et pour moi, l'Irlande, c'est une grande victoire pour les femmes. C'est un pays catholique et c'est aussi pour ça qu'on votait pour que les femmes soient à l'abri des dangers. Je me considère pro-choix et je trouve que c'est à la femme de décider d'avoir ou ne pas avoir un avortement. Et pour moi, il y a les débats de pro-choix et pro-vie et je trouve que pro-vie, c'est pas nécessairement pro-vie, mais c'est contre l'avortement. Moi, je soutiens qu'une femme doit pouvoir décider pour elle-même. Elle doit pouvoir avoir accès à de bons soins médicaux. Elle doit pas être... Il n'y a pas d'avoir de restrictions. L'interdiction de l'avortement, ça met la vie des femmes en danger. Il y a plusieurs femmes, des jeunes filles qui ont des avortements, qui mettent leur vie en beaucoup de danger et qui meurent à cause de cela. Donc, pour éviter cela, il faudra que cela puisse aussi se passer chez nous, dans nos pays. Et je considère que même si peut-être... mon prêtre, il serait pas d'accord avec ça. À mon église, moi, j'ai mes vues et je maintiens ma foi aussi en même temps. Et je vis les deux et je vois pas aucun problème pour moi.
Merci. Gardez l'écoute. Nous avons un auditeur en ligne. C'est Louis Mutanga qui est à Kinshasa. On va revenir vers vous. Mutanga, bonsoir.
Bonsoir la VOA, bonsoir aux auditeurs chéris de la VOA. Nous pouvons dire que l'avortement, c'est un acte qui est condamnable et par la loi ici chez nous, et par notre culture. Lorsqu'il y a quelqu'un, une femme qui a avorté, pour nous, on a toujours considéré, surtout dans nos religions traditionnelles, que c'est un crime et que ça ne peut pas se passer. Voilà la conséquence pour laquelle. Et puis chez nous, lorsque les gens ont peur de pouvoir procéder à cet acte, à l'avortement, nous avons dit que l'observation qui se fait, vous voyez, la croissance démocratique de notre continent, c'est que beaucoup de gens renoncent à cette pratique et que dans nos cultures et aussi dans nos religions, on est en train de nous prêcher et de prêcher. De ne pas procéder à ce que quelles que soient les raisons qu'on peut évoquer.
Mais Louis, que faire lorsque la vie de la mère est menacée, par exemple? Que faire lorsque la vie de la mère est menacée?
Donc, lorsque la vie de la mère est menacée, je crois que le médecin qui peut parler avec la famille, qui pourra faire comprendre que. Parvenir à convaincre qu'on peut procéder à un avortement. Et puis, sur le plan socio-culturel, ici, chez nous, ça pose seulement des problèmes. Puisque à l'église même, on prêche un médecin qui pratique l'avortement, c'est un médecin qui a commis un crime. Voilà ce que nous apprenons des enseignements de nos églises. C'est pourquoi ça pose. Donc, il faut parvenir à convaincre les parents, il faut parvenir à convaincre la famille pour qu'on puisse procéder à un tel acte. Mais ailleurs, c'est le médecin qui prend la décision. Mais ici, chez nous, il faut en tout cas parler avec les membres de la famille pour obtenir l'autorisation. C'est ça, ce que j'avais fait comme constat.
Merci Louis Mutanga pour votre contribution. Il y a Alphonse Mbouaki qui dit « Si la vie de la mère est en danger, le médecin fera tout pour sauver et la mère et l'enfant, car tout être est précieux aux yeux de Dieu. » Niavo Tsatsu, il dit « L'idéal serait que ma foi guide mes choix quotidiens. » par rapport aux leaders, ce n'est pas toujours le cas. Nous trébuchons, nous péchons, c'est pourquoi ils nous demandent de faire la repentance quotidienne. Nous avons Yao Marcelin Kofi en ligne. Bonsoir Yao.
Bonsoir Eric et bonsoir à tous.
Je vous écoute.
Ok, bon, d'abord c'est un thème vraiment très intéressant parce que c'est le thème la religion, la relation à la foi et les décisions quotidiennes. C'est un thème de choix. En ce sens que ce thème permet de vraiment de tester le degré de foi du croyant. C'est ça, parce que y a ce que la religion recommande et puis y a ce que nous, en tant que fidèles, nous faisons. Nous passons outre les recommandations de la religion. Ça, c'est un peu en ce sens-là que le thème est intéressant. Parce que réellement là, Dieu sait combien tu sont réellement convertis. Parce que tout, on dit beaucoup d'appelés, mais très peu de lus. C'est pas tous, c'est pas toutes les personnes qui crient. Qui va voir à Dieu qui réellement qui seront sauvés au dernier jour, au dernier jugement. C'est ça, en fait, c'est un peu ça. Sinon, l'avortement, vraiment, la loi ivoirienne interdit. La loi ivoirienne interdit l'avortement. Mais l'avortement, c'est pratique. De manière clandestine, ça, c'est au vu aussi de tout le monde. C'est la clandestinité, les gens savent. Mais personne n'ose parler. Mais c'est ça aussi. Mais si réellement, vous êtes convaincu, vous êtes vraiment votre foi vraiment ancré dans le Christ. Ou bien dans l'islam. Vous ne pouvez pas vous permettre de connaître vraiment de telles actes. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui encouragent cela, qui recommandent vivement cela à leur conjoint, Et vraiment, c'est un peu triste, quoi. Pour réellement convertir un croyant, vraiment, parce que vraiment, c'est pas le d'un crime, quoi. C'est que de goûter la vie à un enfant, à un ambiant. Même si c'est un ambiant, mais c'est quand même c'est un enfant à devenir.
Merci.
C'est un peu, oui.
Merci Yao pour votre contribution. Nous revenons vers Aïdé. Vous avez suivi cet auditeur qui parle des avortements qui s'opèrent en clandestinité. Est-ce que pour vous cela augmente les morts ou comment gérer cette situation?
Que les hommes ou que les familles le veulent ou pas, les femmes ou les jeunes filles, pour des raisons personnelles, vont avoir ces avortements. Donc, c'est mieux qu'il y ait des soins médicaux appropriés pour garantir leur santé et les mettre hors de danger. Donc, une femme qui a besoin d'un avortement n'est pas une criminelle. Et c'est tout cela que je veux beaucoup préciser. Et question de la foi. Quand on parle de la foi, où on la place dans notre vie, tout le monde veut toujours se présenter comme on est très saint. Mais on sait que dans la vie quotidienne, les gens, ils vont faire tout ce qu'ils veulent. Alors quand ça vient au sujet de la femme, et quand elle est enceinte, tout le monde veut avoir une opinion, mais les avortements, il se passe. Donc, donner la femme au moins un choix. Quel est un choix pour choisir?
Il y a cet auditeur qui dit dans son commentaire, c'est Noam Nissim qui dit « La parole de Dieu est un guide pour tout homme car c'est elle, c'est en elle seule qu'il y a la moralité, le bon sens, l'amour, la paix, la tolérance, la solidarité. Et l'homme qui voudra se détacher de son plan divin ne subsistera pas car sa parole, c'est la colonne de l'humanité. » Sur les questions d'avortement, d'homosexualité, de pédophilie, la sodomie, la masturbation, que dit la parole de Dieu, ces pratiques souillent l'homme, le rend maudit et abominable devant Dieu et devant les hommes. La procréation est aussi le plan de Dieu. Est-ce que ceux qui s'adonnent à ces pratiques s'inscrivent dans le plan de Dieu? La réponse est non. Ces personnes qui le font au nom de la liberté ou soi-disant démocratie doivent se poser cette question. Sont-elles nées d'un père et d'une mère selon le plan de Dieu, ou sont-elles sorties du néant dans tous leurs égarements? Ils veulent adopter des enfants, le concept d'humanité ne leur dit absolument rien, et le comble des pseudo-dirigeants soutiennent cela pour leurs intérêts égoïstes et cupides. Le monde a besoin de Jésus-Christ et sa parole, car là où le péché a abondé, sa grâce a surabondé. Que Dieu vous bénisse. Un commentaire sur son point de vue de Naom, il parle de beaucoup de choses.
Bon, il parle de beaucoup de choses, mais cette même personne ou les autres, il y a des gens qui volent, qui mentent, qui font toutes ces choses. Mais moi, je vois que c'est une perspective de contrôler le corps de la femme. Et malheureusement, on nous dit, on nous apprend à l'église de nous aimer les uns les autres, de ne pas juger les autres, mais je trouve que c'est ce que les gens font tout le temps. Ils se portent, qu'ils sont très proches de leur foi et qu'ils suivent la parole de Dieu, mais pour moi, c'est le contraire. Parce que moi, je suis catholique et je demande que les choix des femmes soient respectés.
On parlait de l'Irlande, le pape François va aller à Dublin prochainement. Jean-Pierre, vous êtes encore là ?
Je suis là, bien sûr.
Voilà, vous avez suivi nos auditeurs, les commentaires. C'est pas très, très flexible.
Oui. Oui, enfin, comme je disais au début, pour moi, c'est assez complexe. Et ça m'est très difficile de... Comment est-ce que je pourrais le mettre ? C'est-à-dire, disons d'abord que chaque religion, de mon point de vue, en tant qu'institution, a le droit de définir ses priorités, a le droit d'avoir ses normes. Et que aussi les membres, d'une façon ou d'une autre, dans une certaine mesure, peuvent aussi se poser des questions sur ces normes. Et je crois que quand une femme, par exemple, parle de, disons, de pro-choix, et on n'est pas nécessairement obligé de parler de meurtre dans ce cas, parce que il y a aussi d'autres dimensions, comme s'il y a par exemple des cas des viols, il y a beaucoup de situations assez complexes, et qu'il faudra aussi tenir compte de ça. Donc, de mon point de vue, et qu'est-ce que je peux dire sur ce cas, c'est je ne condamnerai pas une femme, et qui suis d'ailleurs pour la condamner, à une personne qui a sa relation propre à son corps, qui vit ses propres réalités et qui les définit dans un contexte concret. Par exemple, dans le cas des viols, il y a des situations particulières où elle qui vit dans son corps, qui vit son corps, et elle peut le définir à ce moment-là. Je ne suis pas là pour la condamner. Et d'une part, et d'autre part, aussi, je trouve normal, par exemple, qu'une religion définisse ses normes. C'est cela. Et donc, si quelqu'un se définit comme catholique ou protestant, etc., peut dire je suis chrétien catholique ou je suis chrétien catholique ou protestant
ou musulman.
Cependant, voilà, et je ne suis pas d'accord sur l'un ou l'autre point. Bon, là, c'est autre chose. C'est-à-dire, on ne peut pas limiter aussi cette réalité, par exemple, d'avortement uniquement sur le plan, sur ces dimensions, la tradition ou dimension religieuse. Donc, ça comporte aussi beaucoup de réalités.
Jean-Pierre, on va revenir vers vous. Nous avons deux auditeurs en ligne, mais avant de leur passer la parole, il y a certains commentaires que je dois vous lire. Hassem, il dit, même les animaux n'aiment pas l'avortement. Zoïhera Languid dit, celle qui joue avec l'avortement se déconsidère elle-même, elle ne reste jamais les mêmes, la religion sera leur accusateur à la fin. Et Daniel Mbouyi dit « La religion chrétienne, notamment de vie et principes bibliques qui influencent le plus ma vie et mes choix, pas seulement moi, mais aussi presque toute la société. L'avortement est un meurtre prémédité, c'est un crime horrible qui va à l'encontre de ce que Dieu a dit. Il a dit « Soyez féconds, multipliez-vous et remplissez la terre ». Steve Boko, vous êtes en ligne, bonsoir.
Oui, bonsoir, monsieur.
Voilà, comment votre foi influence vos décisions quotidiennes, individuelles ?
Ah oui, 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 et Gaël, je vais m'appuyer un peu sur l'avortement. D'abord, l'avortement, pour moi, c'est, comme le dit mes confidents précédents, c'est une décision, mais où c'est une pratique qui est en extrapolation de la vie publique. Vous voyez ? Et en ce qui concerne même la foi, et oui, la foi, je pense bien que la foi, c'est sous forme d'un sacerdoce. C'est sous forme, si vous n'avez pas l'amour de quelque chose, vous ne pouvez le faire. C'est comme si nous devions mettre devant l'amour de ce que nous devions faire avant de l'appliquer. Ce n'est pas parce que mon ami est allé à l'église que moi aussi je dois le faire. Et en ce qui concerne la société, dès que vous rentrez à l'église, votre comportement doit être différent de ceux du monde. Oui, donc en ce qui concerne l'enfantement, ce qui est aberrant est que nous constatons certains de nos sœurs chrétiennes même qui continuent de pratiquer cette pratique. C'est un peu aberrant. Donc je conseillerais toutes ces personnes tout simplement que le monde même, c'est-à-dire nous devions, même si on dit nous sommes nombreux en Afrique, c'est pas parce que nous allons regarder ça et garder et casser plutôt la vie de nos futurs futurs cadres qui viendront. Donc en un mot, il va falloir critiquer le fait d'accoucher, même s'ils ne trouvent pas les fonds comme ça, il doit falloir qu'ils font le planning familial pour éviter un peu la chose que de se contenter à l'avortement.
Merci là, Steve pour votre contribution. Nous avons Moïse au Rwanda. Moïse, bonsoir, vous nous entendez?
Oui, je vous entends.
Je vous écoute.
Oui, merci. J'ai de connecter. De toutes les façons, par rapport au thème de l'avortement et aux croyances religieuses, je crois que l'avortement, bien sûr, c'est bon pour la santé de la maman lorsqu'elle est en danger. Mais non conforme aux principes de la Bible, mais aussi aux mœurs de nos sociétés, surtout en Afrique. Je pense que la liberté, peut-être ça dans le monde occidental, doit être résiste. Donc, qu'on ne doit pas imposer à l'Afrique ou alors aux autres sociétés des manières de voir.
Mais Moïse, sinon, Moïse, oui, ce n'est pas du tout à vous imposer quoi que ce soit, mais là on parle de la foi et des choix.
Voilà, bien sûr, de la foi et des choix. De toutes les façons, j'étais en train de dire toujours que dans cette façon là-bas, je vais un peu aborder la question en deux parties. L'avortement, oui, pour la maman qui est en danger, mais l'avortement, non, pour la maman qui n'est pas en danger. Donc on ne doit pas avorter dans le sens de vouloir seulement de se donner plaisir. Mais de toutes les façons,
gardez la ligne, Moïse, gardez la ligne, on va poser cette question à Aïdé. Aïdé, cet auditeur, il est très clair, il dit... Avortement, oui, pour sauver la vie de la maman, mais avortement, non, quand il ne s'agit pas de sauver la vie, quand la vie de la maman n'est pas en danger.
Bon, c'est son point de vue, et malheureusement, c'est la plupart des auditeurs ils disent la même chose. Ils font toujours appel à la foi, mais dans d'autres points de vue sur la société, sur ce qui se passe, sur les... je ne sais pas, sur les meurtres, sur les vols, sur les mensonges, l'hypocrisie, tout ça que l'on voit tous les jours dans nos vies, les gens n'appellent pas, n'interviennent pas à leur foi. Mais quand il s'agit du corps de la femme, les hommes insistent à le contrôler, à déterminer ce qui doit se passer. Donc, pour moi, on ne doit pas se limiter à des situations particulières. Parce que... limiter ce choix aux femmes, ça veut dire qu'elles sont en danger, qu'elles vont avoir des avortements illégaux.
Merci Moïse. Moïse, vous êtes encore là?
Oui, je suis encore là.
Vous en convaincu?
Oui, de toutes les façons, je ne suis pas tout à fait convaincu, mais on devrait plutôt revoir la façon dont la femme est traitée aujourd'hui et par rapport à la foi, notamment à la limitation de naissance. Il y a un auditeur qui a dit qu'il y a la Bible qui recommande à ça que les gens soient féconds et multipliez-vous.
Merci Moïse pour votre contribution et bonne soirée chez vous. Aïdé, pour terminer, je vous ai coupé un tout petit peu. Vous pouvez terminer votre phrase. Comment justement concilier la foi et la religion pour opérer des choix?
Pour moi,
en 10 secondes.
Pour moi, c'est respecter la vie d'une femme pour moi. Donc, c'est pour cela que je continue ça avec ma foi. Dieu nous aime. Dieu nous a créés et il veut qu'on soit là, qu'on s'aime entre nous et qu'on ne juge pas les uns ou les autres et qu'on s'assure que tout
merci,
le monde...
Merci Jean-Pierre. Pour terminer, en 10 secondes, le temps file. Jean-Pierre, en 10 secondes. Ah, nous n'avons pas Jean-Pierre en ligne, nous l'avons perdu. Merci en tout cas pour votre contribution. Je vous retrouve la fois prochaine. Au revoir, à bientôt.